l'innovation.
De l'innovation.
L'écosystème innovant.
Social innovation.
On a beaucoup d'innovation.
L'innovation. L'innovation radicale.
Pépite, c'est le podcast du MTI qui vous parle innovation et technologie d'aujourd'hui.
Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce premier épisode de Pépite en compagnie de Alvin Severien dans les locaux de son entreprise. Alvin, merci de nous accueillir.
Bienvenue.
Tu es donc le CEO et le cofondateur de la société Algama, créée en 2013, qui est une entreprise qui développe des micro-algues dans l'alimentaire et pour faire du coup des produits qui sont véganes. Tu as aussi la qualité d'être un ancien du master MTI, donc on est ravis de commencer une saison de podcast avec toi. Et pour commencer, une question assez large pour toi, qu'est-ce que ça veut dire innover ?
Alors, j'aurais peut-être commencé par le fait que je suis ancien du master. Je pense que c'est un fait plus marquant de ma vie.
Vas-y, on te laisse gérer.
C'est vraiment de l'humour, mais en gros, c'est intéressant de poser cette question de qu'est-ce que c'est qu'innover, puisque ça a été le sujet de mon mémoire d'entrée au master MTI, justement. C'était intéressant de creuser le sujet et d'y réfléchir à un moment. Et je dirais, depuis que je suis entrepreneur, ma vision, c'est que l'innovation, c'est pousser les choses plus loin. Et surtout, pousser les choses jusqu'au stade où elles vont véritablement fonctionner de manière pérenne. Donc j'ai tendance à penser, c'est très perso, que l'innovation n'est pas seulement apporter quelque chose de nouveau, mais d'apporter quelque chose qui va fonctionner et qui va remplacer les anciens standards. Donc si on doit revenir en arrière, c'est une mauvaise innovation, si je puis dire, c'est plutôt une nouveauté que de l'innovation. Donc innover, c'est pousser, mais pousser pour la pérennité.
Et donc, tu as créé ton entreprise en 2013. Est-ce que tu as toujours eu envie de créer ton entreprise ?
C'était pas forcément une motivation vraiment trop express pour moi. Mais c'est vrai que j'ai toujours été un peu entrepreneur dans l'âme. Depuis que je suis petit, j'organise des choses pour gagner ma vie et gagner de l'argent, que ce soit embrigader des gens de ma famille pour pouvoir aller laver des voitures ou des choses comme ça. Donc, c'était une finalité peut-être logique.
Et du coup, Algama, c'est une question de timing quand tu l'as créé. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à partir dans cette entreprise, dans cette aventure entrepreneuriale ?
Ah oui, le timing a été une clé énorme. J'ai démarré avec deux potes d'enfance. Avec qui on s'est intéressé à ce sujet, les micro-algues. Et on a découvert à quel point ça pouvait être une solution intéressante pour l'avenir de l'agroalimentaire. Ce qui, en 2013, c'était pas trop, et même avant en fait, en 2011 et 2012, quand on a commencé à en discuter, c'était pas vraiment un sujet, le sujet du moment, on va dire, l'agroalimentaire. Mais constatant à quel point il y avait des problématiques énormes et des choses qui étaient sous-exploitées, choses comme ingrédients ou technologies, on a décidé d'y aller.
Et du coup, les micro-algues, j'imagine que ça a dû demander énormément de R&D au début. Et du coup, sachant ces contraintes techniques assez importantes, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus important à faire ou à avoir en tête quand tu as monté Algama avec, les cofondeurs qui étaient avec toi sur cette aventure ?
Alors, je pense que la R&D, évidemment, c'est un élément essentiel de notre société puisque on en a fait énormément et on en fait toujours. Mais ce qui fait la différence entre Algama et d'autres sociétés dans les micro-algues, c'est que nous avons d'abord regardé le marché. C'est-à-dire que c'est notre originalité et ce qui fait notre succès et qu'on a réussi à attirer aussi de très nombreux talents. On a d'abord regardé qu'est-ce que le marché souhaite avoir ou qu'est-ce qui fonctionne réellement. On est parti du produit en mettant le consommateur au centre de tout ce qu'on allait faire pour ensuite remonter vers l'amont et savoir comment est-ce qu'on pouvait travailler sur cette matière première pour pouvoir en faire quelque chose qui peut fonctionner derrière. Et c'est vrai que ça a été un élément assez unique d'Algama. On est parti du produit pour remonter vers la R&D nécessaire plutôt que de partir de la R&D pour pouvoir pousser des solutions éventuelles qui sont parfois des solutions à un problème qui n'existe pas.
Et c'est vrai qu'en 2013, moi je trouve que les micro-algues, c'est assez précurseur comme projet.
Quelles ont été les premières personnes à croire en ce projet? Comment est-ce que tu as été accompagnée? Est-ce que tu as levé des financements? Est-ce que tu as eu une aide publique, un incubateur, etc.?
Alors, en 2013, je pense que la plupart des gens ne comprenaient pas trop bien ce qu'on faisait. C'était marrant parce qu'ils avaient tendance à se dire que si on était dans l'agroalimentaire, on ne pouvait pas être une start-up. Et les choses étaient très différentes. Aujourd'hui, la food tech, c'est énorme. Il y a des investissements qui sont colossaux. On en parle beaucoup plus. Et ce sont pour beaucoup des sociétés qui préexistaient en 2013. Et il n'empêche que dans l'écosystème, les gens ne connaissaient pas trop. Je pense que là où on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a réussi à bien expliquer notre histoire. Une histoire un peu logique, une stratégie qui faisait sens. Et d'être aussi dans ce moment où on était de très jeunes entrepreneurs qui avons attiré beaucoup de personnes autour de nous. Et c'est là que sont venus les premiers supporters, les premiers investisseurs. Je pense qu'au début, c'était beaucoup moins concret que quelques années après. On simplifiait beaucoup de messages aussi à l'époque. On simplifiait beaucoup pour que ce soit plus compréhensible. Et c'est vrai qu'on on a réussi à développer notre plateforme d'innovation, nos laboratoires, seulement après avoir réussi à convaincre des personnes de choses beaucoup plus simples.
Et du coup, tu dirais que le storytelling, quand tu montes ta boîte, c'est une des choses clés. Parce que là, tu nous parlais d'histoire d'Algama. Et justement, si on revenait en 2013 et que tu nous expliquais un peu l'histoire d'Algama, ça ressemblerait à quoi? Parce que ça a dû bien évoluer depuis.
Ah mais absolument, l'histoire, ça fait tout. On adore les histoires. Complètement et franchement on a envie d'acheter du rêve, c'est ce qui est le plus intéressant dans la vie, je pense. L'histoire d'Algama à l'époque, c'était plus orienté sur les produits, c'est-à-dire que le produit était nouveau, le produit était vraiment très novateur, il y avait ce qu'on a présenté comme étant une boisson fonctionnelle innovante, c'était le cas. Et c'est en plus très 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 innovant jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a créé des nouvelles technologies pour pouvoir améliorer la façon dont on fait ces boissons à partir de microalgues. Mais c'est une partie de l'histoire. Il y avait l'autre partie de l'histoire, des petits jeunes qui sont potes d'enfance, parce que c'est vrai, on était potes d'enfance, et qui montent une boîte. Ça, c'est l'histoire du début. Ça, c'est ce qui a fait, c'est ce qui a forgé les premiers jours. Si bien qu'au début, on ne se présentait pas en tant qu'Algama, qui est le nom de la société depuis le début. Parce que d'ailleurs, le nom, il vient autant d'algues que des deux premières lettres des prénoms de chaque fondateur. Donc, Alvin, Gaëtan, Mathieu. Et on se présentait en tant que Springwave, qui était le produit qu'on a mis en avant. On ne parlait jamais d'Algama parce qu'on s'est dit... Aujourd'hui, notre histoire d'Algama, notre plateforme d'innovation ne fera pas mouche. Et on l'a testé un petit peu quand même. Mais montrer cette boisson, montrer quelque chose d'existant qui attire les gens, ça sera mieux.
Et justement, en parlant du décollage d'Algama, donc en 2013, le marché de la spiruline, c'est quelque chose d'assez précurseur, comme on vient de le dire. T'as pas eu peur d'échouer? Il n'y a pas eu des freins quand même à cette envie d'innover, d'entreprendre?
Non. C'était... Non, franchement...
Vous n'êtes pas posé de questions, vous y êtes allé?
Bah ouais. En 2013, moi j'ai 24 ans, je risque rien à faire ça. C'est-à-dire que j'ai... Franchement, je peux dire rien à perdre. C'est pas... Donc ça fait pas peur de se mettre dans cette position quand on sait qu'on a... rien à perdre, on a des diplômes, on est en bonne santé, donc je sais pas, je me sentais pas spécialement en risque.
C'est génial comme façon de penser, et je me demandais justement, en étant jeune à 24 ans et en créant sa boîte, comment est-ce que tu commences? Est-ce que tu as apporté ton financement? Vous aviez chacun des fonds à apporter? Ou est-ce que vous avez commencé à lancer des cagnottes? Est-ce que c'est vos amis qui vous ont soutenu? Peut-être la famille?
On a très vite levé des fonds auprès de Business Angels. Très, 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 très vite. Bon, un mois après la création de la société, on avait déjà... On a levé avant de créer la société, en fait.
Et comment ça se passe, ça? Est-ce que vous devez vendre un petit peu le projet auprès de Business Angel? Est-ce que c'est vous qui avez été les chercher?
C'est ça, on allait chercher du monde. on allait chercher du monde. Il y a pas mal de façons de faire, mais c'est... Quand on a besoin de lever des fonds, il faut aller voir des gens qui veulent investir. Des gens qui veulent investir dans les tickets demandés, donc les montants d'investissement qu'on recherche. Et nous, on a démarré au premier jour avec 100 000 euros, en fait. Et c'est grâce à ces 100 000 euros, donc je précise bien d'investisseurs, je ne parle pas de nos apports, 100 000 euros d'investisseurs, on a pu démarrer les choses, faire les premiers recrutements. On n'était pas payé, on avait déjà bossé avant, donc on a réussi à survivre quelques mois quand même sans être payé. Et du coup, on a monté un lab, on a recruté les premières personnes qui sont aussi un peu les cofondateurs d'Algama. On est parvenu à mettre en place des programmes de recherche de plus long terme aussi, dès le début. Ça, c'est, je suis assez content de voir que des choses qui ont été lancées au tout début aboutissent maintenant. Et bon, non pas parce que ça a pris du temps, mais parce que c'était potentiellement des choses un peu complexes et qu'on a réussi à faire des choses qui vont avoir une réalité marché à la fin. Et au fil des tours, parce que c'est une question assez récurrente de savoir où est-ce qu'on va chercher l'argent, on va chercher l'argent auprès des gens qui investissent le montant qu'on recherche. Donc quand nous on a commencé avec 100 000 euros, on allait voir des personnes qui mettaient quelques dizaines de milliers d'euros. Et quand on a commencé à lever en millions, on est allé voir des gens qui mettaient quelques centaines de milliers d'euros, voire des millions, et ainsi de suite.
Et il y a une partie d'Algama du coup qui a été montée aux États-Unis, à New York. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est plus avantageux d'être entrepreneur aux États-Unis, le pays un peu du self-made man, par rapport à la France qu'on critique souvent pour son immobilisme?
Ok. Effectivement, on a un bureau d'Algama aux US, à New York, où j'ai passé 4 ans. Et c'était extrêmement intéressant. Enfin, je dis que c'est extrêmement intéressant, en fait, d'avoir cet ancrage américain. En France, on a un contexte qui est extrêmement favorable à l'entrepreneuriat, en réalité. Mais vraiment, peut-être plus favorable encore que le contexte américain sur certains points, notamment pour l'innovation. Parce que, déjà, parce que la France, c'est un paradis fiscal de l'innovation, hein, avec toutes les aides qu'il peut y avoir... de crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, les subventions, le BPI qui est hyper active sur toutes les startups. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, plus une réserve de talents en fait qui est hyper compétente dans différents domaines. Nous, pour l'agroalimentaire, c'est absolument génial. D'ailleurs, entre l'agroalimentaire et la biotech, on a des profils exceptionnels en France. Maintenant, en ayant dit tout ça, je pense qu'on est quand même parfois sur un modèle qui ressemble un peu à de l'assistanariat en France, où franchement, et j'en connais beaucoup, des boîtes qui font des choses qui sont pas top top, mais qui sont super subventionnées, et qui ne vivent que par ça. Donc je trouve que c'est un petit peu limite. Ce qui m'a frappé aux États-Unis et qui a été le mindset global en fait américain qui m'a le plus marqué, c'est que déjà là-bas c'est vraiment marche ou crève. Ça, il y a pas autant d'aide. On a tendance à mettre en parallèle tout ce qui est financement. Alors, levée de fonds, on va dire, les Américains, ils vont lever beaucoup plus de fonds. Quand tu lèves 10 millions en France, tu lèves 100 millions aux États-Unis. C'est un peu vrai, mais c'est très vrai. 80% des investissements, de toute façon, vont aux États-Unis. Sur tout secteur confondu. Donc c'est vrai que là-bas les tickets sont plus gros, mais tout est beaucoup plus cher. C'est-à-dire que quand nous on va recruter un jeune docteur qui peut être très subventionné grâce au crédit impôt recherche par exemple, aux États-Unis c'est impossible, mais strictement impossible d'envisager de l'avoir pour moins de 100 000 dollars à l'année. Donc on est sur des comparaisons qui sont assez difficiles à faire, et avec des besoins financiers qui sont beaucoup plus importants. Donc Il y a un mindset entrepreneurial qui est assez impressionnant là-bas. Et c'est marrant puisque bon, moi, j'étais à New York et j'allais au moins une fois par mois à San Francisco. Franchement, plus on va vers l'ouest, plus c'est fou. C'est vraiment, quand je partais de Paris, je pars de Paris où ça va et j'arrive à New York, ça commence à être un peu fou. Et pour arriver à San Francisco, t'as l'impression d'être sur la Lune. C'est marrant de voir ces différents mindsets et cette vitesse d'opération aussi, de décision, sachant que quand on parle d'innovation et d'entrepreneuriat, on va beaucoup parler d'argent parce que c'est le moteur, c'est le fuel. Les Américains sont très très forts pour ça. Il ne faut pas se leurrer sur un autre point. Et ça, c'est hyper important pour tous les différents entrepreneurs hein, qui ont de grandes ambitions. C'est que ce qui fait qu'on arrive à aller vite, il y a plusieurs typologies de sociétés, mais nous, on, vous l'avez compris, on lève des fonds. C'est quand même assez capitalistique comme activité parce qu'il y a beaucoup de R&D. Et du coup, on est sur ce modèle-là. Sur ce modèle-là, de levée de fonds qui ne finance pas que la R&D, mais qui peut aussi financer le développement commercial. C'est important de comprendre que les investisseurs attendent un retour et que le retour, généralement, quand c'est un investissement en capital, se fait sur la sortie donc, ou l'exit, peu importe comment on l'appelle, qui est soit la revente, soit l'introduction en bourse. En Europe, notamment en France, il y a beaucoup, beaucoup moins d'introductions en bourse importantes, beaucoup moins de reventes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour une start-up et un créateur même français, il se doit d'avoir un regard très international pour pouvoir intéresser aujourd'hui des partenaires et des investisseurs.
Maintenant qu'on connaît un peu mieux tout ton parcours d'entrepreneur, qui est passionnant d'ailleurs, on aimerait mieux connaître le fonctionnement de ta société qui du coup produit des produits alimentaires à base de micro-algues. Comment ça t'est venu l'idée de créer cette société ?
Ça, c'est venu assez simplement en fait. Depuis pas mal d'années, moi-même et mes cofondateurs, nous prenons de la spiruline en complément alimentaire. Donc la spiruline qui est une micro-algue. Et en voyant ses bienfaits, on s'est dit ce serait plutôt cool d'en faire quelque chose. Et parce qu'il y a un taux de protéines qui est extrêmement élevé, de très nombreuses vitamines, des acides gras polyinsaturés. Enfin, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs un super aliment. Et c'est assez miraculeux, quoi. Après, c'est dégueulasse. Donc on s'est dit, il y a un problème. C'est cool, quand il y a un problème, on peut essayer de le régler.
Parce que la spiruline, c'est... Enfin, moi, je vois pas exactement ce que c'est. Dans ma tête, c'est vraiment une espèce de poudre verte, un petit peu repoussante. Mais tu la consommes comment ? Ça se met dans l'eau ? Tu fais des cachets avec ?
Oui, ce sont des cachets. C'est surtout en cachet, en poudre. Après, bon, je dis que c'est dégueu, mais ça passe. J'en prends depuis pas mal d'années, mais c'est plus que j'ai tendance à être assez excessif et radical, mais c'est aussi ce qui forge l'état d'esprit de la société. C'est que, en vrai, moi, j'en prends tout le temps et je suis même habitué au goût. Par contre, je ne crois pas que le consommateur soit prêt à accepter ce type de goût. Par rapport à beaucoup d'études, on voit que c'est vraiment moins de 5% de la population qui tolère ça. Donc pour moi, il faut, comme je le disais beaucoup plus tôt, c'est que faut mettre le consommateur au centre et pas regarder ce que nous on aime bien, ce que nous on est prêt à accepter, mais ce que le marché est réellement prêt à accepter. Donc c'est pour ça que je vais avoir un point de vue assez radical sur la spiruline ou les algues par rapport à leur goût ou leurs propriétés organoleptiques.
Oui, c'est vrai que j'imagine que ça doit être difficile d'avoir un regard un petit peu objectif quand on est le nez dedans tous les jours et qu'on est fan comme toi de la spiruline depuis longtemps. Et du coup, tu le disais, les algues, ça pue, c'est pas beau, c'est pas bon. Comment on fait pour surmonter ce genre de contraintes qui sont quand même énormes dans l'agroalimentaire ?
C'est un peu le défi parce que on a voulu proposer une innovation de se pincer le nez, c'est pas passé.
Zut.
Du coup, on s'est dit que on allait mettre en place des procédés qui nous permettaient de transformer, de prendre en fait ce qu'il y a de bon dans l'algue et de retirer ce qui lui donne son mauvais goût. Pour faire simple.
Pour rester sur les algues et leur intérêt, c'est une des protéines qui demande le moins d'eau actuellement. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une solution face aux enjeux alimentaires qu'on rencontre et qu'on va rencontrer de plus en plus dans les années à venir ?
Nous, c'est pour ça qu'on est là. C'est-à-dire que pour nous, c'est les microalgues, les algues doivent faire partie de la solution. Alors, nous, on n'est pas trop du genre à vendre le fait de dire que les algues sont la solution ultime, parce qu'on aime beaucoup l'agroalimentaire, on aime beaucoup manger, on aime beaucoup la diversité, on y croit. Et on pense que ça peut être une partie très importante de la solution pour tous leurs apports, parce qu'ils sont très nombreux. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres solutions à aller rechercher. Et quand on... Parce que finalement, une des contraintes de notre industrie agroalimentaire ou de nos différentes industries, c'est qu'on a tendance à devenir très rapidement monomaniaque. La monoculture, le fait d'être vraiment centré sur à peine 2 dizaines de sources de nourriture, en fait, hein, dans le monde entier, en comprenant le riz, le riz, le maïs, le soja, enfin toutes ces crops qui sont utilisées, il y en a très très peu, et c'est là qu'on commence à rentrer sur des catastrophes et environnementales ou sanitaires d'ailleurs. Et enfin, on peut donner pas mal d'exemples, mais on se dit parfois que les avocats c'est sympa, et après comme avoir un avocat toast c'est un truc de ouf, on massacre la forêt et on fait des choses qui sont absolument débiles. Pardon de dire ça, mais pour pouvoir fournir suffisamment d'avocats toute l'année à tout le monde pour pouvoir avoir des trucs qui sont stylés.
Et tu parlais tout à l'heure que c'était hyper important de mettre le consommateur au centre des préoccupations, et j'imagine que forcément le marché des microalgues, il a dû beaucoup évoluer depuis 2013. Comment est-ce qu'il a évolué, et comment est-ce que tu peux aussi faire évoluer la gamme de produits que vous proposez à Algama? Et quel produit vous proposez d'ailleurs, Algama?
Alors, nous, on a un truc, c'est qu'on n'essaye pas de faire évoluer le marché de la microalgue du point de vue consommateur, parce qu'on propose des ingrédients. Et l'idée, c'est que la microalgue, on ne la voit pas. Et limite, si on n'a pas envie de savoir qu'il y a de la microalgue, on ne le saura pas. Donc, par exemple, il y a une mayonnaise qui s'appelle The Good Spoon qui est commercialisée. C'est une mayonnaise qui est végane. Elle va pas être verte, elle n'a pas de goût d'algue ou quoi que ce soit, mais grâce à l'algue, on arrive à remplacer l'œuf. Et c'est donc un des produits qu'on a lancés aux États-Unis et en France, dans lesquels on va utiliser l'algue. On le vend comme étant une mayonnaise végane, pas une mayonnaise à l'algue. Parce que notre point de vue à Algama, c'est que le consommateur aussi n'est pas forcément là pour acheter une algue. Il est là pour acheter un produit qu'il veut, quel qu'il soit. Donc à la fin, l'idée, c'est de proposer la solution adéquate sans pour autant mettre l'algue devant. Et le marché, d'une manière plus globale, a tendance à évoluer parce qu'il y a de plus en plus d'algues autorisées sur le marché. Puisqu'il y a des questions réglementaires aussi qui vont concerner les nouveaux ingrédients, les nouveaux produits qu'on va utiliser, la réglementation qui n'est pas la même en fonction des pays où on va aller. Par exemple, on utilise des microalgues qui sont autorisées en Amérique du Nord mais pas utilisées en Europe ou vice-versa. Ce sont des choses que nous savons gérer à Algama parce qu'on utilise plusieurs sortes d'algues. Mais c'est un marché qui se développe et qui doit encore se scaler, c'est-à-dire être vraiment sur une échelle beaucoup plus importante pour devenir massif. Sachant que, je vais donner une autre précision, c'est sur les ingrédients, pour arriver à être significatif, il faut quand même avoir des productions qui se comptent en millions de tonnes. Et aujourd'hui, on est encore au balbutiement si on considère l'industrie agroalimentaire dans sa globalité, sur toutes les alternatives dont on parle. Ça reste très petit en termes de volume globaux.
Oui, parce que du coup, là, on parle beaucoup de spiruline ou de chlorelle, mais en fait, les microalgues, il y en a énormément, plusieurs centaines, plusieurs milliers, je crois. Je n'ai pas le chiffre exact. Et en plus, là, on reste dans le secteur de l'agroalimentaire, mais ça peut être dans le secteur énergétique. Enfin, c'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire avec des microalgues. Qui l'eût cru? Et moi, il y avait une question que je me posais en voyant toute la R&D que ça demande finalement d'être dans un secteur comme ça aussi technique. C'est comment on fait quand on monte sa boîte dans quelque chose de très technologique pour éviter la vallée de la mort, c'est-à-dire vraiment passer du stade d'expérimentation à un stade de commercialisation, ce que vous êtes en train de faire, parce que j'imagine que ça doit demander énormément de défis.
Alors, la vallée de la mort...
aux États-Unis.
Je ne sais pas si je conseillerais de rester aux États-Unis, je ne sais pas. Peut-être d'une certaine façon. C'est intéressant en fait comme remarque, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à passer un cap, notamment en France. Parce que tout à l'heure, je disais que l'entrepreneuriat est très encouragé et très facile en France. En revanche, réussir à monter, à passer un certain niveau entre la R&D et la commercialisation, c'est plus difficile. Donc, comment passer cette vallée de la mort? Je pense que pour nous, les choses se jouent essentiellement autour de notre team, d'avoir une équipe extrêmement compétente, des personnes qui l'ont déjà fait auparavant, des personnes qui vont regarder véritablement les besoins du marché, qui vont savoir vendre ce que nous faisons, parce qu'à la fin, c'est une entreprise, il faut vendre. Et donc, voilà, je pense que faut réussir à passer ce cap en étant bien entouré d'une équipe solide et qui sache relever les défis commerciaux.
En parlant de relever des défis, avec la crise sanitaire en ce moment, ça a quelles répercussions sur une société? Est-ce qu'il y a eu des conséquences directes sur Algama?
Eh bien, pendant le confinement, on a fermé nos labos. Donc, quand on n'est pas au labo, on ne peut pas faire grand-chose de labo.
J'imagine.
Mais sinon, je pense qu'on a la chance d'être une entreprise financée. Donc, on n'a pas eu de contraintes extrêmes. On a réussi à réorganiser le travail de manière complètement intégrale. Il n'y a eu personne au chômage partiel. Tout le monde a continué à travailler de chez eux. Aujourd'hui encore, on fait énormément de télétravail. Ça marche très, très bien. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, on a encore plus de demandes. C'est-à-dire que le Covid fait que on veut plus de local, on veut plus d'inno, on veut plus toutes ces solutions dont on parle. Et donc ça a un effet dynamisant sur le secteur. Ce qu'il faut, c'est réussir à survivre. Nous, on a la chance d'avoir été financés avant la crise, donc ça va.
Est-ce que la crise a fait évoluer votre mode de management un petit peu après une fois qu'on a eu le déconfinement, qu'on est retourné à peu près à la normale?
Ben, je dirais que oui, au moins sur deux axes. C'est le premier étant beaucoup plus de télétravail et de préparation au télétravail. Et le deuxième, c'est que nous, on est dans l'agroalimentaire. Donc, on a l'habitude de faire goûter nos produits. Et pas que dans le coin, pas qu'en France, pas que dans Paris. Du coup, là, ne pouvant plus nous déplacer, surtout ça, parce qu'on ne peut plus se déplacer, on réapprend à fonctionner aussi avec les autres sociétés agroalimentaires, leur département de R&D à distance. Donc en s'envoyant des produits, en s'envoyant des choses, en s'envoyant des protocoles, en faisant beaucoup plus de réunions à distance aussi, mais c'est une autre manière de bosser qui est un peu nouvelle. Je ne suis pas... que j'adore pas, je dois dire, parce que c'est toujours chouette de pouvoir voir en live la réaction des gens quand on leur présente des innovations, surtout quand c'est agroalimentaire, ils goûtent, et en général, on ne ment pas complètement avec ces réactions spontanées, donc on voit les choses, et c'est bien d'avoir ce type d'impression et de pouvoir les prendre aussi pour nous. Donc là, c'est à distance, c'est un peu moins bien, mais il faut faire avec.
Bah écoute, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Vraiment, merci de nous avoir reçus dans tes locaux, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain podcast Pépite, avec un autre intervenant qui sera tout autant passionnant.